Frères et sœurs, prenons place pour entendre un passage biblique issu du livre des Juges. Au chapitre 9, il y a une fable attribuée à Jotham. C'est un conte, un récit qui intervient après la prise de pouvoir d'Abimélec. Abimélec est fils de Gédéon, appelé aussi Yerubbaal, et il s'est adressé aux notables de Sichem, cette place forte qui est connue aujourd'hui pour être Naplouse, et leur a dit « Franchement, n'est-il pas mieux qu'un homme prenne le pouvoir plutôt qu'un pouvoir réparti entre 70 personnes ?» Et pour joindre l'acte à la parole, il fait donc tuer ces 70 personnes qui sont aussi ses frères. Et seul réchappe Jotham. Jotham fut informé donc de ce massacre, et à partir du verset 7, voici ce qui arrive. Jotham alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il cria à haute voix. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous ». Mais l'olivier leur répondit « Renoncerai-je à mon huile par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes, cela pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent au figuier « Viens, toi, règne sur nous ». Mais le figuier leur répondit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent à la vigne « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres dirent au buisson d'épines « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres « Si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous voulez vraiment me donner l'onction comme roi sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Frères et sœurs, avant de reprendre cette fable, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières. Au cantique 193, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu.
Oh,
comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyée. Alors nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde, pour qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, les Israélites viennent de connaître un coup d'État contre la démocratie. 70 personnes susceptibles de gouverner viennent d'être assassinées, tout simplement, permettant ainsi au commanditaire Abimélec d'être intronisé. Du massacre, vous l'avez entendu, il y a un rescapé, Yotam, ce qui signifie en hébreu l'Éternel accompli, l'Éternel complet, la plénitude de l'Éternel. Yotam se rend sur le mont Garizim, c'est un lieu particulièrement sacré. Dans la symbolique biblique, on dit que c'est le nombril du monde, l'axe autour duquel le monde tournerait, ce qui permet au monde de tourner rond en quelque sorte. Il prend la parole et s'adresse à tous les notables de Sichem. Alors nous serions en droit d'attendre qu'il assène quelques vérités bien tranchées, nous serions en droit d'attendre qu'il dénonce ce véritable coup de force et qu'il demande que justice soit faite sur le champ. Et l'on attend de Yotam qu'il prenne la parole vigoureusement, qu'il dénonce, qu'il accuse, qu'il vilipende. Et au lieu de cela, Yotam va raconter une histoire. Une fable digne d'Ésope ou de Jean de La Fontaine. Et cela semble bien dérisoire au regard de ce qui vient de se passer. Cela semble non seulement disproportionné, et pas dans le bon sens du terme, mais tout simplement ridicule, pas sérieux. Ridicule, pas sérieux. Eh bien voilà. Voilà des critiques que je lis tous les jours chez les détracteurs de la religion, de tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à la religion. Dans le combat au sujet de la laïcité qui fait rage ces derniers jours, ces dernières semaines, des personnes se sentent manifestement investies d'une mission qui consiste à décrédibiliser tout ce qui, de près ou de loin, concerne la religion, le religieux, le fait religieux. Concernant le christianisme, ce sujet qui nous concerne plus précisément et dont nous sommes un peu capables de pouvoir répondre. Concernant le christianisme, les attaques fusent aussi bien sur la théologie qui ne serait qu'une histoire de surnaturel pour débiles profonds, que sur les textes bibliques avec leurs contes de fées. Manifestement, des personnes qui n'ont jamais lu l'analyse du psychanalyste Bettelheim sur les contes de fées. Ce que je retiens, c'est qu'à nouveau, des coups de boutoir sont assénés en France pour éliminer le religieux du panorama. Et je dis bien éliminer, car c'est de cela dont il est question de façon très explicite. Et en disant cela, je ne cherche pas à dramatiser pour attirer quelque compassion que ce soit. Je ne cherche pas à attirer sur nous un regard miséricordieux et à exister à travers une victimisation. Des articles, des prises de parole publiques de journalistes, de personnes exerçant des responsabilités politiques ou non, disent très clairement que la laïcité, ce devrait être l'exclusion radicale du religieux. Ces personnes n'ont probablement jamais lu cette fable de Yotam. Dans une certaine mesure, c'est presque tant mieux, car ils seraient capables d'en dire que, vu le niveau intellectuel de la fable, la Bible doit être du même tonneau, et cela ajoute au fait qu'on ne peut décidément pas prendre les religions au sérieux. Sous-entendu, les affaires de la cité doivent être dans les mains des gens qui ont la tête sur les épaules. Peut-être des gens comme Abimélech. Cette fable, car effectivement c'est bien d'une fable dont il s'agit, a pourtant sa place dans la Bible. C'est un texte qui n'a jamais été contesté dans le canon. Et c'est peut-être dans des situations semblables à celles que nous vivons que ce genre de texte a non seulement sa légitimité, mais que ce genre de texte est d'une redoutable efficacité. Parlons un peu de la fable et de ce qu'est une fable. Qu'il y ait des fables dans la Bible n'a, à vrai dire, rien d'étonnant pour nous. Non seulement nous sommes habitués au genre littéraire fable par notre culture classique, mais ce n'est pas un cas rare dans la Bible. Les cours de français nous ont appris à ne pas considérer les fables comme des récits scientifiques destinés à décrire le fonctionnement de la nature, mais comme des récits poétiques, métaphoriques, destinés à décrire le fonctionnement de la société des hommes. Il n'en va pas autrement des textes bibliques. Les fables sont une manière de mettre en scène les hommes et les femmes aux prises avec le réel. Un réel qui ne s'épuise pas dans le physique, qui ne s'épuise pas dans le matériel, qui ne s'épuise pas dans le visible. Aucun croyant sérieux ne pense que le serpent de la Genèse parlait vraiment, ni que les arbres se mettent à converser pour choisir un roi. Les contes de la Bible, par exemple le livre de Jonas ou le livre de Job, sont autant d'histoires qui n'ont pas eu lieu, mais qui nous donnent à réfléchir sur notre vie. Et nous les prenons au sérieux parce que ce qu'ils disent prend la vie au sérieux. Et nul croyant sérieux ne considère que les choses ont pu se passer exactement telles qu'elles ont été racontées. L'intérêt de la fable, de la parabole, du conte, c'est de parler de la vérité sans organiser un choc frontal. Ce genre de choc frontal qui a cours aujourd'hui dans les débats publics sur les réseaux sociaux. Le choc frontal semble être le mode de fonctionnement privilégié ces temps-ci. Quelqu'un fait une déclaration et aussitôt, on lui oppose une déclaration contraire. Des personnes signent une tribune et on leur oppose une correction de la dite tribune. La communication, ces derniers temps, n'est qu'affaire de réaction. Et dans une certaine mesure, ceux qui réagissent, ceux qui ne réagissent que par réaction, sont des réactionnaires. On réagit au propos d'un tel, on réagit aux réactions d'une telle, ce qui provoque d'autres réactions en cascade. On en vient aux pétitions pour demander la démission d'un tel, ce qui provoque en retour une pétition pour soutenir le même. Et finalement, ce devient un concours pour savoir celui qui aura la plus grosse liste de soutien. Bref, nous sommes dans une logique d'affrontement que je ne saurais qualifier que par un seul mot, stérile. Personne ne sort grandi de ces querelles de cours de récréation portées sur la place publique, avec les effets de résonance que nous permettent les moyens de communication modernes. Qui gagne dans ce genre de combat de coq ? Personne. Car en vérité, il n'y a plus que des anathèmes. Des anathèmes qui se traduisent par « je te bloque sur le réseau social », je t'efface de ma liste d'amis, etc. Il n'y a que des perdants. Car dans ces logiques d'affrontement, on ne convainc vraiment que les convaincus. On ne fait que radicaliser ceux qui adhèrent à nos positions. Et c'est là tout l'intérêt de la fable. La fable rend la communication possible parce qu'elle ne braque pas les interlocuteurs. Dites un mot théologique ou un mot du vocabulaire religieux à quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de religion et vous pouvez être sûr qu'il ne vous écoute plus. Alors, en déplaçant les interlocuteurs sur un terrain neutre, la fable rétablit l'écoute et donc la communication. Du moins, elle rend cela possible. Elle dédramatise, elle décrispe, elle décontracte dans la mesure où elle neutralise les conflits sur la forme. Et aujourd'hui, tant de choses se jouent sur la forme et non plus sur les idées. Bien des personnes qui partagent les mêmes convictions sur l'humanité qu'ils souhaitent se déchirent sur des questions formelles. N'oublions pas que les religions sont comme des langues qui permettent de dire ce qu'il y a de plus ultime pour chacun. Cela signifie que nous pouvons parler des langues différentes et pourtant dire la même chose. Cela signifie que nous pouvons avoir des religions différentes et a fortiori ne pas avoir de religion dite officielle et pourtant penser, dire et désirer les mêmes choses. Eh bien, la fable crée un terrain d'entente possible par-delà les références culturelles propres. Pour finir ma défense du texte biblique et des contes qu'il contient, je dirais que ce genre littéraire est respectueux des personnes. Il évite de blesser en accusant nommément. Le but est de permettre à chacun de prendre conscience d'une situation, de prendre conscience de mécanismes à l'œuvre dans notre monde et à en tenir compte pour sa propre analyse et donc, a posteriori, pour ses propres choix. La fable, vous l'avez entendu ici, n'attaque pas le sujet de front et elle ne nomme pas directement les accusateurs. La fable ne commence pas par accuser l'adversaire d'être un ignorant, un incapable, un usurpateur, un radicalisé. La fable expose une situation qui, a priori, ne nous concerne pas directement, ce qui nous permet de l'écouter plus tranquillement, sans nous sentir accusés et donc sans déjà préparer la réplique. La fable nous permet de prendre conscience d'une situation et de pouvoir la juger, peut-être pas objectivement, car on ne juge jamais totalement objectivement, mais en se dépouillant un peu de son orgueil, de son narcissisme et de ce sentiment préalable d'avoir l'impression que l'autre est toujours contre moi. Une fable est bien inoffensive à première vue, d'autant qu'elle ne fait pas d'attaque personnelle, ces fameuses attaques ad hominem qui pullulent également de nos jours. Alors j'en viens à ce que dit cette fable, car il ne s'agit pas d'en rester simplement à la surface des choses. Que nous dit cette fable aujourd'hui ? Eh bien, elle nous parle de tous ceux qui ont accédé au pouvoir par défaut. Mais plus précisément, si nous regardons bien ce qui est dit, cette fable s'adresse à tous ceux qui ont permis et qui permettent cela. Les notables de Sichem sont bien les destinataires de la fable. Ce n'est pas à Abimélec que Yotam s'adresse, mais aux notables. Ce sont eux, l'olivier, le figuier, la vigne, qui ont mieux à faire que de s'intéresser au bien commun. Leur prestige personnel l'emporte sur le bien de la société. Leur narcissisme les empêche de se mettre au service de la communauté. Ces notables ont refusé de renoncer à une part de leur gloire ou de leur vie facile. Ces notables ont refusé de renoncer à l'irresponsabilité. Or, c'est précisément sur cet aspect que Yotam va les amener à réfléchir et va les amener à répondre de leurs actes ou de leurs non-actes. Abimélec est au pouvoir, mais pour quelle raison ? Est-ce parce qu'il considère que c'est un bon choix ou est-ce pour une autre raison ? Et dans ce cas, quelle est la raison pour laquelle les notables ont accepté qu'Abimélec prenne le pouvoir ? Yotam, en racontant cette histoire, donne un critère pour évaluer le choix de celui qui règne. Est-ce un bien absolu ? Est-ce une vérité ? En hébreu, c'est le terme « emet » qui est employé. « Emet » qui signifie la vérité et qui donnera aussi « emuna », la confiance. C'est la raison pour laquelle parfois ce texte est traduit par « est-ce de bonne foi que vous avez intronisé Abimélec ?» le buisson plein d'épines. Est-ce un bien absolu ou non ? Est-ce parce qu'il avait le profil pour le poste ou est-ce pour une autre raison ? Si ce n'est pas un bien absolu, c'est donc un bien relatif, ce qui signifie que le choix a été fait pour d'autres raisons que l'objectif de gouverner. Il se pourrait que les notables aient accepté l'intronisation d'Abimélec pour avoir la paix dans leurs affaires personnelles. Il se pourrait que cela les arrange à titre personnel qu'ils soient au pouvoir, soit parce que la nature a horreur du vide et qu'il fallait bien remplir l'organigramme, soit parce que cette personne saura leur rendre service, leur renvoyer l'ascenseur. Et au fond, c'est une instrumentalisation. On le met aux commandes de façon à pouvoir s'en servir et à en profiter à titre personnel. Quelles que soient les motivations, Yotam dénonce cette situation qui consiste à mettre quelqu'un au pouvoir pour une autre raison que la conduite des affaires publiques. À la limite, le comte se moque bien de savoir comment Abimélec a obtenu le pouvoir. Le comte s'interroge sur le bien fondé de l'intronisation d'une personne qui n'a pas à cœur la mission qui lui est confiée. Au fond, ce comte s'interroge sur tous ceux qui prennent le pouvoir sans le désir de la gestion du pouvoir. Le pouvoir pour lui-même et non pour la mission qu'il contient. Et là est toute la différence entre Moïse et Abimélec. Souvenez-vous de ce Moïse qui est lui aussi face à un buisson et un buisson qui flambe justement. Il flambe mais ne consume pas parce que Moïse se tient face à l'ultime. Moïse ne tient pas pour évident de vivre selon son propre désir seulement, mais il va se laisser convertir par l'ultime et assumer la responsabilité qui lui est demandée, à savoir libérer le peuple d'Égypte de la servitude et lui permettre d'accéder à la liberté, ce qui est le sens même du pouvoir politique, la liberté de chacun. Concernant les notables de Sichem, il se pourrait que ce n'est pas cela qui les ait motivés. En conséquence, il se pourrait que le buisson flambe et consume très largement. Ainsi, cette fable biblique nous offre une approche théologique de la responsabilité politique, de la question du pouvoir en général. Avec un langage religieux, cette fable aurait dit « Si vous vous éloignez de la parole de l'Éternel, vous ne prolongerez pas la durée de vos jours. » Dans le langage populaire, elle dit que si nous instrumentalisons le pouvoir, si nous nous en servons à d'autres fins que le service minimum et le service commun, alors même les plus vigoureux s'en trouveront consumés. On pourra toujours me dire que le christianisme est une affaire dépassée, que cela ne fait même plus sourire les enfants. Pour ma part, je constate que la théologie chrétienne est encore en mesure de redonner un sens politique aux personnes. La théologie appelle chacun à être responsable de ses choix. Et ces choix ne concernent pas simplement l'intime. Ces choix ne concernent pas simplement le domaine de l'alcôve. La théologie appelle chacun à être responsable de ses choix, des choix qui ont toujours des répercussions sur la place publique. Elle appelle donc chacun à prendre conscience des conséquences néfastes lorsque nous faisons des choix conditionnés pour d'autres raisons que celles qui concernent le sujet à traiter. Autrement dit, lorsque nous jouons au billard à plusieurs bandes, que nous faisons ceci pour obtenir cela qui permettra de réagir là-dessus et au fin de compte, peut-être, d'avoir un retour sur investissement. Voilà pourquoi nous serions bien inspirés de continuer à raconter les histoires de la Bible et pourquoi pas à en produire d'autres. Et il se pourrait que nous ayons finalement l'équipement nécessaire, chacun individuellement, pour produire de nouveaux contes, produire de nouvelles fables et les offrir à nos concitoyens pour dédramatiser, pour essayer de faire un peu retomber la tension, pour essayer de rompre cette logique d'affrontement. Nous avons un besoin ardent de renouer le contact entre communautés de pensée, entre communautés culturelles, religieuses, entre toutes formes de communautés. Nous avons un besoin ardent de nous entendre, quelles que soient nos convictions du moment, quels que soient les propos que nous avons tenus jusque-là, quelles que soient les étiquettes qu'on nous inflige. Et il me semble que la théologie nous aide à déployer une pédagogie qui nous fasse passer de l'affrontement à ce dialogue nécessaire. Parce que la théologie est ce qui nous remplace toujours devant les véritables enjeux. Amen.